Chers frères et sœurs, nous avons coutume de dire après la consécration Mysterium Fidei. Et en bon français, il est grand le mystère de la foi. Alors c'est vrai que si le mot mystère a bien une opportunité, c'est à propos de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est vraiment une réalité voilée. Une réalité qui ne se donne pas facilement à connaître. C'est vrai que la présence est réelle, mais elle résiste. Elle résiste à nos investigations. Et pour le dire autrement, l'Eucharistie blesse notre raison, blesse l'évidence. Elle blesse cette union si familière et si intime de la connaissance de nos sens et de celle de notre esprit. Ce que perçoivent nos sens, ce n'est pas ce que croit notre cœur. Alors d'ordinaire, comment est-ce que nous fonctionnons? On voit des feuilles, on voit des branches, on voit du vert, et puis on dit « c'est un arbre ». Mais voilà qu'avec l'Eucharistie, je ne peux pas faire cela. Les sens me disent quelque chose, Dieu me dit autre chose, et c'est lui que je dois écouter. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Autrement dit, quand on croit à l'Eucharistie, on va briser un fonctionnement ordinaire par un acte qu'on pourrait presque qualifier d'un peu violent. C'est l'acte de foi. Et un acte qui doit se renouveler. C'est là peut-être où nous avons une petite différence avec nos frères évangéliques. Vous savez peut-être, dans les grandes assemblées évangéliques, on dit que tous ceux qui sont pour le Seigneur se lèvent et disent « Jésus est mon Seigneur ». On s'est levé, on proclame et on bascule dans le camp de la foi. Ce serait formidable si c'était vraiment comme ça. Parce que l'acte de foi, notamment devant l'Eucharistie, il doit être renouvelé en permanence. Et la permanence de Jésus dans ce sacrement nous invite à cette permanence de notre acte de foi ou à un acte de foi perpétuellement renouvelé. Quel est le fruit de tout ça? Eh bien, c'est que l'Eucharistie nous fait sortir de l'habitude. Vous savez que l'habitude, c'est ce qui nous tue. Une âme endurcie par l'habitude, et vous savez bien, Peggy avait bien compris que le grand obstacle à la foi, ce n'est pas l'athéisme, c'est l'âme habituée. Tout cela, frères et sœurs, parce que je voudrais peut-être que nous prenions l'Eucharistie aussi comme une magnifique méthode, une magnifique pédagogie pour nous apprendre à mieux aimer le prochain et bien sûr une magnifique nourriture pour le faire. Que fait Jésus aujourd'hui? Il prend cette bassine, cette aiguière, il se met à genoux aux pieds de chacun de ses disciples, il leur lave les pieds, il les embrasse. Ce faisant, que révèle-t-il? Eh bien, que Dieu est serviteur. Mais il révèle autre chose. Plus encore, peut-être, ou en tout cas, une réalité qui va avec celle que je viens d'énoncer. Il révèle qui sont ses disciples, quelle est leur dignité, quelle est leur grandeur. Saint Thomas ira jusqu'à dire « Jésus, en venant sur la terre, en se faisant homme et en nous servant, nous traite comme si nous étions des dieux. » Alors oui, c'est une révélation inouïe. Et Pierre réagit. De quoi a-t-il peur? Eh bien, peut-être de sa propre grandeur. Bien sûr, une grandeur qui ne vient pas de lui, mais tout entier de Dieu. Pourtant, le geste de Jésus, ce n'est pas de la comédie. Il n'est pas trompeur. Dieu s'est mis à genoux devant l'homme. Et ce faisant, il a fait apparaître la part divine de chacun. Et il nous dit, ceci c'est un exemple que je vous donne. Votre part divine, à vous aussi, elle est cachée. C'est finalement à vous de la révéler. Vous vous souvenez peut-être que dans ce très bel hymne, la Dorothée dévotée, qu'on chante peut-être encore quelques fois, on dit cette parole du Seigneur présent dans l'Eucharistie. Latens Deitas, divinité cachée. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi devant chaque homme Latens Deitas, toi aussi, tu caches la divinité. Alors certes, sous des apparences communes pour le pain et le vin, parfois décevantes pour le prochain, nous nous lassons vite de ses défauts, de ses petitesses, de ses impatiences, que sais-je. Mais voilà, comme pour l'Eucharistie, il faut dépasser l'apparence pour croire à cette part divine présente à des titres différents, bien sûr, dans l'Eucharistie et dans l'homme. Comment faire pour cela? Eh bien, peut-être que la première façon d'aimer, c'est de réintroduire une bonne distance. Nous avons trop le nez collé à ceux qui nous entourent, et du coup, nous nous agaçons. Il faut faire ce pas en arrière et se dire comment Dieu le voit. Peut-être très concrètement, avec un moment de silence, en ne répondant pas du tac au tac, avec certainement une bonne maîtrise de soi, mais qui permet petit à petit que l'autre apparaisse dans ce qu'il est réellement. Et puis allons plus loin, comment Jésus réintroduit cette distance? Eh bien en s'agenouillant. Autrement dit, la distance, c'est de voir la personne aussi sous un autre point de vue. Un prêtre qui préparait des jeunes aux fiançailles avait affaire à un jeune couple de fiancés qui avait un peu tendance à s'agacer. Voilà, même dans les fiançailles, ça peut arriver. Et alors, ce brave prêtre dit aux fiancés, « Eh bien maintenant, mets-toi à genoux devant ta fiancée et lave-lui les pieds. » Et il demande à ce jeune fiancé, « Comment tu la vois maintenant ?»« Je la vois d'en bas. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait plus du tout envie de dire les mêmes choses d'elle en ayant changé de point de vue. Il la découvrait sous un autre angle. C'est bon que nous puissions peut-être retrouver à telle ou telle occasion ce geste du lavement des pieds et pourquoi pas de le réintroduire dans nos liturgies familiales. Nous en manquons, liturgies familiales. Elles sont trop pauvres. C'est le prêtre qui fait tout. Mais non, la liturgie, c'est aussi au cœur de la famille qu'elle doit avoir lieu. Bien sûr, adaptée à ce que peut vivre une famille. Mais c'est si beau de pouvoir faire ce geste qui a cette vertu propre de pouvoir changer notre regard, voire notre cœur. Allons un peu plus loin. L'Eucharistie, si j'arrive à dépasser ses apparences, à croire, et si je m'en nourris, eh bien elle va m'aider à nourrir cette charité en moi. J'aimerais considérer que cela est vrai aussi pour le prochain. Comme le prochain peut être lui aussi pour moi nourriture. Comment cela se fait? Si j'accepte de me laisser, utilisons ce vieux mot mais qui a toute sa signification, de me laisser édifier par lui. C'est ce qui rendait, vous voyez, la petite Thérèse si sympathique à ses sœurs. Elle savait, cette plus grande sainte des temps modernes, elle savait se laisser édifier par ses sœurs et dans l'humilité de son cœur, comme admirer des comportements les plus ordinaires. Notre Saint-Père François nous a rappelé aussi qu'il était de notre devoir de retrouver une autre forme de sainteté. Nous avons souvent recours à des saints que nous aimons bien, d'autres époques, d'autres pays, des saints parfois dont la vertu est admirable plus qu'imitable, comme dit le pape François lui-même. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons tendance à négliger les saints de la porte d'à côté, ceux qui peuvent nous édifier si nous acceptons de porter un autre regard sur eux, ceux qui nous entourent, notre conjoint, nos parents, nos enfants, cette mère de famille qui élève seule ses enfants et qui arrive à laisser dans leur cœur ce signe, cette marque de droiture, nos frères de communauté, avec leur persévérance dans leur vocation. Tout cela, cela nous nourrit. Il faut réhabiliter cette sainteté de la porte d'à côté qui est comme ce pain quotidien, l'Eucharistie quotidienne. Pourquoi la sainteté ne le serait pas aussi ? Et puis nous laisser édifier par tous, pas simplement par ceux que je vais choisir. C'est un peu le défi. Je m'en souviens d'avoir vu un film de Holmy, d'après une nouvelle de Joseph Roth, un Allemand, qui s'appelle « La légende du saint buveur ». À Paris, en 1934, Andreas Karczak, un mineur silésien, dort sous les ponts. Il a été en prison à la suite d'un homicide. Il en est sorti. La rue l'attendait. Et lors de ses mendicités, un homme, bien mis, bien sûr, lui donne 200 francs. À l'époque, c'était énorme. Mais avec cette exigence, dès que tu peux, tu le rendras à Sainte Thérèse. Et alors cet homme continue à se laisser entraîner par la boisson et tous les vices qu'il peut y avoir dans la rue. Mais cela, il le fera. Il rendra ses 200 francs au tronc de la petite Thérèse de l'église Sainte-Marie des Batignolles. Cette part inaltérable, cette part lumineuse, ce diamant que Dieu laisse dans le cœur de chacun d'entre nous, même les plus disgraciés, pour que nous puissions considérer qu'il habite en lui. Permettez-moi de terminer en citant ces paroles si belles d'un vieux cérémonial scout qu'on livrait aux jeunes adultes que nous étions avant qu'ils n'entrent dans leur vocation. On leur disait ceci. « As-tu compris, à travers l'amitié fraternelle et les rencontres de chaque jour, que tout homme est un être unique, que dans les plus disgraciés, comme dans les plus obscurs, luit une étincelle divine qui mérite ton amour. Es-tu prêt à ne mépriser personne, à t'entretenir fraternellement avec chacun, à apprendre de tous ? Alors oui, Jésus fait une ultime révélation dans cette institution de l'Eucharistie. Il révèle, bien sûr, à quel point il est serviteur, mais il révèle aussi quelque chose, non pas aux hommes, non pas aux anges, mais au pain, mais au vin. Il dit au pain, tu es capable de devenir Dieu. Il dit au vin, tu es capable de devenir mon sang. Alors puissions-nous, nous aussi, nous dire les uns aux autres, tu es capable d'être ce tabernacle du Dieu vivant, que celle qui le fut pleinement nous accompagne sur ce chemin.